Chapitre 2. La main d'Alice heurta une hanche pointue sous les draps. Une sensation suffocante l'avait réveillée quelques instants plus tôt. Inquiète, en sueur, elle s'était redressée et était restée un long moment à l'écoute du silence. Le calme nocturne, chahuté par les sifflements du vent, lui paraissait hostile. Reflet probable de son tumulte intérieur. Quelle heure était-il ? La soirée avait été tellement agitée, tellement improbable, qu'elle avait oublié son téléphone portable dans le salon. Son regard glissa sur la chevelure noire et ondulée de Jim, en partie occultée par les deux oreillers. Elle avait fait l'amour avec lui dans le lit conjugal. Elle avait profané le sanctuaire et saccagé l'image de Franks. Elle avait beau se dire et se répéter qu'elle était enfin débarrassée de chaînes trop lourdes à porter, qu'elle avait fait le premier pas vers la liberté, c'était la déception qui dominait. Froide, amère, goût de bile dans la gorge, frémissement désagréable sur sa poitrine et dans le fond de son ventre. Elle exécrait la peau rugueuse et l'odeur de Jim. Un mélange de bois pourri, d'humus et de tabac froid. Il n'avait pas tenu les promesses entrevues dans le mystère de ses yeux. Elle avait cru qu'il l'emmènerait sur des chemins inconnus et vertigineux. Il s'était comporté en amant ordinaire, en homme pressé, se servant d'elle comme d'une poupée gonflable pour atteindre sa propre jouissance, l'abandonnant à ses doutes et à ses déceptions, après l'avoir généreusement irriguée. Elle n'avait pu s'empêcher de le comparer avec l'homme qui avait partagé les 15 dernières années de sa vie. Franks, le cérébral, le dogmatique, n'était pas un amant exceptionnel, sauf quand une soirée un peu trop arrosée l'autorisait à transgresser ses blocages. Mais il restait attentif aux réactions de sa partenaire. Et puis sa peau était douce, son odeur agréable, ses gestes tendres, sa maladresse touchante. Avec Jim, le prédateur, le mot « prendre » revêtait toute sa signification. Il prenait l'espace, l'air, l'eau, la nourriture, les femmes. Il avait couché avec Coraline Jeanneret. Alice en était persuadée désormais. Et probablement avec les deux autres. Sans vergogne, sans tenir compte des règles communautaires, sans se soucier des conséquences. Il prenait tout ce qu'il pouvait prendre. Se servant de ses mains aux doigts interminables, de ses dents taillées comme des crocs, de son sexe long et tordu, comme d'instrument de conquête et de domination. Il avait pris Alice avec brutalité, et tout en espérant vaguement que la brûlure initiale de la pénétration se transmuerait en plaisir, elle s'était rendue compte qu'elle venait de plonger la tête la première dans une mare d'ennui. Non seulement elle n'avait pas joui, mais la brûlure ne s'était pas estompée, enflammée par les frottements mécaniques et la semence acide de Jim. Ses fantasmes s'étaient fracassés sur le réel. Nuit en miettes, insomnie hantée par le remords. Les frémissements dans les replis secrets de son corps lui rappelaient qu'elle n'avait pas rêvé. Elle avait pensé qu'une nuit torride avec Jim le ténébreux scellerait sa détermination à quitter Franks. Elle n'aurait pas trouvé le courage de rompre si elle n'avait pas provoqué cette sensation de commettre l'irréparable. 34 ans, et obligée de recourir à ce genre de subterfuge pour concrétiser une décision pourtant évidente. Elle avait longtemps prétexté le bonheur des enfants pour supporter l'inexorable érosion de son couple et remettre la séparation au lendemain. Mais au fond d'elle, elle n'ignorait pas que la lâcheté était la cause principale de son renoncement. Elle était l'autruche dans l'absurde arche de Noé du feu de Dieu. Et Jim, le vautour ou le serpent. Pas question de construire une nouvelle vie sur une pierre aussi poreuse, aussi bancale. Besoin urgent de sentir l'eau brûlante crépiter sur sa peau. Elle se leva, enfila son peignoir, traversa la chambre et, s'efforçant d'oublier les écoulements visqueux entre ses cuisses, passa dans le couloir. Théo jaillit comme un chat de l'obscurité, pyjama tire-bouchonné, cheveux en pétard, yeux gonflés de reproches.
« Qu'est-ce qu'il fout dans ta chambre, l'autre ?»
Théo n'avait jamais prononcé le nom de Jim. Il l'appelait « l'autre » ou « le Grax », l'un des nombreux mots de son lexique mythologique personnel. Alice s'accroupit, saisit son fils par les épaules et tenta de l'attirer à elle. Il refusa l'étreinte, lui échappa et se rencogna contre le mur, farouche, hérissé. Elle se releva sans chercher à masquer son agacement.
« Qu'est-ce que tu fiches debout à cette heure-ci, Théo ? Les histoires de grandes personnes ne te regardent pas. » « T'es comme les autres. »
« Les autres ?»«
Le Grax, je l'ai déjà vu avec la mère de Yann, et avec les autres mères. »«
Vu ? En train de faire quoi ?» De la défiance dans le regard perçant de Théo.
« Arrête de me prendre pour un bébé. Il faisait comme dans les films sur Internet. Tout nu, l'un derrière l'autre, ou l'un sur l'autre, dans la salle de bain ou dans le grenier. Marie m'a dit hier soir qu'elle s'en allait. C'est pour ça qu'elles sont parties les autres familles, hein? À cause de ce que les mères faisaient avec le Grax. Elles sont parties parce qu'elles en avaient marre de tout ça. Elle accompagna sa réponse d'un geste circulaire du bras. Au fait, comment t'as pu aller sur ce genre de site, toi? Tu crois que tes protections servaient à quelque chose? Est-ce qu'il a mis une capote au moins, l'autre? Non, l'autre n'en avait pas mis. Et Alice prit conscience de son inconséquence. C'était son fils de 9 ans qui lui rappelait les principes élémentaires de la prudence. Jim était du genre distributeur de saloperies vénériennes, d'hépatites et de virus en tout genre. Elle en était quitte pour un test de dépistage et quelques jours d'angoisse. Comment tu sais qu'on doit mettre une... Enfin, tout ça? Théo haussa les épaules. Solitaire, perché dans ses mondes, il pouvait se montrer aussi raisonneur et sentencieux que son père, lâchant de temps à autre une succession de phrases qui, bien qu'incompréhensibles, semblaient renfermer toute la sagesse de l'univers. Des genres de haïku. Après un usage intensif de l'Internet, comment avait-elle pu se montrer aussi naïve pour croire que les logiciels de protection parentale suffiraient à empêcher Théo d'accéder aux sites réservés aux adultes et des jeux vidéo? Il s'était pris d'une passion soudaine pour les Amérindiens et mis en tête de fabriquer un arc et des flèches capables de tuer des bisons. Franks lui avait dit en riant qu'il ne pourrait jamais vérifier puisqu'il n'y avait pas de bisons en Dordogne. Vexé, Théo lui avait rétorqué aussi sec qu'il ne pourrait pas non plus vérifier que l'arche du feu de Dieu servirait à quelque chose, puisque la fin du monde n'arriverait jamais. Théo avait surpris sa mère avec Jim. Elle ne pourrait plus s'épargner la grande scène dramatique avec Franks, le déballage sordide. La gorge nouée, elle se dirigea vers la salle de bain. « Et comment tu as pu voir Jim et les autres là-dedans ? Bon, on en reparlera plus tard si tu veux bien. » Théo la laissa franchir la moitié du couloir avant de lancer. « Le jour s'est pas levé ?» Elle se retourna. « Comment ça, le jour s'est pas levé ?»« Bah oui, il est 9 heures et il fait toujours nuit. » Elle le fixa avec attention. Elle se demandait parfois s'il était normal, s'il dégringolerait un jour de ses univers imaginaires. « Viens voir si tu me crois pas !» Il n'attendit pas la réponse de sa mère pour filer vers la pièce principale de la maison, une salle de 120 mètres carrés, équipée d'une cheminée centrale et de 3 poêles à bois. Alice frissonna et resserra le col de son peignoir avant de lui emboîter le pas. Le froid était subitement descendu après un début d'automne presque tropical, moite, malsain. Ses pieds nus se glaçaient sur les dalles de terre cuite. Les lampes basse consommation mirent un peu de temps à s'emplir de lumière. Théo l'attendait près de la baie vitrée. La pièce résonnait encore des violentes disputes entre Franks et les autres membres de la communauté. Il lui avait déversé des tombereaux de reproches sur la tête. Livide, cramponné à ses certitudes, il avait riposté avec l'ironie cinglante et la mauvaise foi qui le caractérisaient. Les membres de l'Arche s'étaient évadés l'un après l'autre de la prison du feu de Dieu, en laissant sur la grande table commune des bouts de papier couverts de mots rageurs où se mêlaient les récriminations et les menaces de représailles physiques et juridiques. Les Jeanneret, les plus résistants, les plus fidèles, avaient mis à profit l'absence du geôlier pour déserter à leur tour, pas très courageux non plus. Bien que Ludovic Jeanneret, Jacques pour Théo, fut 2 fois plus grand et large que Franks. « Tu me crois maintenant ?» demanda Théo, le front et le nez collés au triple vitrage de la baie. Alice leva les yeux sur la vieille pendule mécanique de la salle à manger. 9h30. Soit elle avait dormi plus longtemps qu'elle ne l'avait cru, soit il fallait d'urgence régler la pendule. Elle récupéra son téléphone portable, abandonné la veille sur le canapé, après que le ronronnement de la voiture des Jeanneret s'était estompé, après que les lèvres de Jim s'étaient écrasées sur les siennes et que ses mains tentaculaires s'étaient aventurées dans son soutien-gorge. 9h32, affichait le petit écran. Elle se rapprocha de la baie. Les ténèbres emplissaient toujours la cour intérieure, si profonde qu'elle ne distinguait pas le mur d'enceinte surélevé 2 ans plus tôt par les hommes. Des particules grises surgissaient de l'obscurité, silencieuses, ballottées par le vent tourbillonnant, semblables à des flocons.
« Tu crois qu'il reviendra le jour ?»«
Il n'y a pas de raison, c'est sûrement une éclipse ou un phénomène du même genre. » Mais Alice n'y croyait pas. Son intuition lui soufflait qu'une menace inconnue et terrible se cachait dans l'obscurité, dans la pluie insolite et muette qui blêmissait le sol de la cour intérieure. Elle entr'ouvrit la baie d'une 20aine de centimètres. Une bourrasque et une nuée de particules grises s'engouffrèrent aussitôt dans la maison, répandant une âcre odeur de soufre. Elle rabattit les pans de son peignoir soulevés par le vent et referma précipitamment la baie.
On dirait des cendres. »
Théo avait récolté quelques particules dans le creux de ses mains. Alice en recueillit une sur la pulpe de son index et la goûta de la pointe de la langue. Saveur d'œuf pourri. Elle pensa au discours de Franks sur les éruptions volcaniques, sur les nuages de poussière en suspension qui dresseraient une barrière infranchissable pour les rayons du soleil. Une nuit perpétuelle. Une glaciation soudaine identique à celle qui avait provoqué l'extinction des dinosaures. Elle frémit, puis se secoua. Surtout, surtout ne pas se laisser contaminer par les théories paranoïaques de Franks. Allume la télé, Théo. La télé, le net, le téléphone mobile. Les mots qui avaient suscité d'interminables controverses dans la communauté. Les uns les considérant comme le diable habillé de technologie, les autres argumentant qu'il valait mieux rester en contact avec le monde extérieur. Ces derniers avaient fini par obtenir gain de cause. Le vote des enfants avait beaucoup pesé sur le scrutin. On avait donc gardé le diable technologique à la maison, tout en assurant qu'on le surveillerait comme le lait sur le feu et qu'on ne tolérerait aucun débordement. Théo alluma le téléviseur à plasma encastré dans le mur. L'écran se couvrit de points blancs et grésillants.
« Y a pas d'image. »
J'essaie la radio. Alice se rendit dans la cuisine où flottait l'odeur lourde du gratin dauphinois du dîner de la veille. Le poste de radio ne cracha que des sons inaudibles, suraigus, insupportables.
« Qu'est-ce qui se passe, maman ?»
Zoé venait de surgir dans la cuisine, échevelée, robe de chambre élimée sur pyjama blanc à pois roses, chaussons en forme de tête de chat.
« Y a que maman et Jim... »
« Théo, tais-toi !» D'une moue horrifiée, Zoé, qui n'avait jamais caché son aversion pour Jim, signifia à sa mère qu'elle avait compris. Déjà que le climat n'était pas au beau fixe entre Alice et sa fille, l'ambiance risquait de devenir insupportable jusqu'au retour de Franks. Très cher payé pour une misérable coucherie.
« Il y a qui fait pas jour à 9h30 », reprit Théo. « Et puis qui tombe de la cendre. »« N'importe quoi, lui !»
Alice sauta sur l'opportunité de changer de sujet.
« Ton frère a raison. »
Zoé s'approcha à son tour de la baie vitrée et contempla les particules grises qui dansaient dans l'obscurité.
« La télé marche plus, la radio non plus !» ajouta Théo. « On est coupé du monde !»
Un mélange de jubilation et d'inquiétude dans sa voix enfantine.
« Tu devrais appeler papa !»
Alice hocha la tête et composa le numéro de Franks, même si parler avec son mari était la dernière chose dont elle avait envie. Elle n'obtint qu'un silence ouaté. Pas de sonnerie, ni de message d'accueil. Ça répond pas.
Insiste,
lança Zoé agressive.
Je l'ai eu tout à l'heure.
Il y a combien de temps?
Je sais pas, moi, une demi-heure peut-être.
Essaie avec ton téléphone, ça marche pas avec le mien. Zoé sortit son téléphone de la poche de sa robe de chambre et tenta d'appeler son père sans résultat.
Merde, ça répond pas non plus.
Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Demanda Alice.
Je lui ai dit que les Jeanneret étaient partis, que t'étais d'accord avec eux et que t'en avais marre toi aussi, que tu voulais t'en aller et le laisser tout seul au feu de Dieu. De toute façon, tu peux bien partir avec Jim ou avec qui tu voudras. Moi, je resterai avec papa.
Zoé avait tout débité sans reprendre sa respiration.
Premièrement, c'est pas à toi de décider. Deuxièmement, j'ai pas l'intention de partir avec Jim. Tu veux envoyer papa devant le juge toi aussi? À ton avis, qu'est-ce qui décidera le juge quand je lui dirai que ma mère est une salope, qu'elle a couché avec Jim?
Les mots de sa fille se fichèrent comme des flèches dans le plexus d'Alice et lui coupèrent le souffle. Encore une fois, ce qui se passe entre les adultes ne vous regarde pas, ton frère et toi.
Ça me regarde si tu veux te séparer de papa.
Alice ne parvint pas à soutenir le regard insolent et tragique de Zoé. Le silence redescendit sur la maison, bercé par les sifflements du vent et les infimes crissements des cendres sur les vitres.
De toute façon, on est déjà séparés de papa.
Soupira Théo d'une voix étonnamment calme. Alice s'avança vers son fils et lui entoura les épaules. Cette fois, il ne refusa pas le contact.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Il a toujours dit que quand la fin du monde arriverait, on serait coupé de tout. Il n'y aurait plus de train, plus de voiture, plus de route. Il ferait tellement froid dehors que personne ne pourrait survivre. » »«
Tu lui as toi-même affirmé que la fin du monde n'existerait jamais. » »«
Parce qu'il m'avait énervé avec les bisons. Mais j'ai toujours su qu'il avait raison. »
Une fin du monde, ça n'arrive pas comme ça. Alice tremblait maintenant. Le froid devenait mordant. Des lueurs mauves, vertes, jaunes, rouges, sabraient l'horizon et jetaient des lueurs vives dans la cour intérieure presque entièrement blanche.
Nous serons prévenus, ça va se lever. Il va bientôt revenir. On a déjà été prévenus, insista Théo. Tu te souviens, cet été? Les tsunamis, les ouragans, les tremblements de terre.
Alice scruta les ténèbres par la baie vitrée. Même si elle avait toujours douté des théories de son mari, elle l'avait suivi dans tous ses délires, par paresse, par faiblesse, par commodité. Son regard se suspendit à l'immense rosace pourpre et mauve qui embrasait la nuit. Les phénomènes inquiétants de ce matin d'octobre correspondaient avec une exactitude troublante aux prévisions de Franks. Il s'était seulement trompé dans la date. Le grand bouleversement débutait 2 mois plus tôt que prévu.
La famille de Marie, elle va mourir de froid sur la route.
Et papa, il pourra plus jamais revenir.